French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
La pandémie m'a fait ce cadeau de $0 au mois de mars 2020. J'ai vraiment regardé l'échec droit dans les yeux. J'étais convaincue que ça allait, c'était fini. J'allais pouvoir trouver un autre boulot, me réinventer pour la xème fois. Et en fait, j'ai exploré ensuite ce monde de Zoom. Et mon monde, au final, au cours des 2 années suivantes, mon monde s'est agrandi. Pour moi, c'est comme si, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait 5 pièces que je connaissais pas dans ma maison. Voilà. Et j'ai découvert un monde d'une richesse, d'une culture vraiment incroyable.
En mars 2020, le choc de la crise sanitaire à laquelle le monde a dû faire face a créé un très violent désordre et mis à l'arrêt complet de nombreux pans de l'économie mondiale. Le domaine de l'événementiel, des divertissements, des spectacles, la mise à l'arrêt de nombreuses écoles et tous ces commerces et secteurs d'activité jugés comme non essentiels. Aujourd'hui, nous revenons 3 ans après sa première participation à French Expat sur ce que la pandémie a entraîné dans la vie d'Estelle Tracy, une employée en théorie non essentielle. Sommelière en chocolat, basée en grande banlieue de Philadelphie, aux États-Unis, Estelle revient sur ce cadeau très, très mal emballé que son chiffre d'affaires de $0 au mois de mars 2020 dernier. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
Alors là, je suis devant chez moi. Je suis en train d'évaluer une nouvelle tablette de chocolat. Celle-ci, elle est originaire d'Australie. Et je suis toujours à l'affût de nouvelles tablettes qui me permettent d'avoir une bonne idée de ce qui se trouve à l'étranger. Voilà, donc là, c'est cassé. L'heure de la dégustation a sonné.
Qui suis-je? Oh là là, avec les années, la réponse elle est de plus en plus longue. Je m'appelle Estelle Tracy. J'habite dans la région de Philadelphie depuis 20 ans et je suis originaire de la région parisienne. J'ai suivi une formation d'ingénieur chimiste à Strasbourg et après avoir vécu différentes vies professionnelles, aujourd'hui j'anime des ateliers de dégustation de chocolat en présentiel, mais surtout sur via visioconférence. Et ce que je peux ajouter d'autre, c'est que je suis mariée à un Américain et j'ai 2 enfants âgés de 9 et 15 ans. Non, moi j'en ai vu des choses. Bref, après 10 ans, donc en 2015, je quitte ce travail pour publier mon guide de survie alimentaire aux États-Unis. La blague maintenant, vu que ça fait un petit moment que le livre est sorti, que j'ai quitté ce travail, c'est qu'en fait, quand j'ai quitté le travail, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire au-delà de 1 mois. Je m'étais dit, un mois plus tard, je vais lancer ce guide. Et en fait, ça fait 7 ans que je suis sur ce plan de 1 mois. Voilà. Donc, c'est exciting, c'est bizarre, c'est drôle, c'est fun, c'est tout à la fois. Mais c'est ça, en fait, moi, ça fait 7 ans que je travaille sur ce plan à un mois.
Eh bien, ça te réussit plutôt pas trop mal. Tu nous avais expliqué justement comment tu avais fait ce switch, comment tu t'étais retrouvée aux États-Unis et comment est-ce que tu avais décidé de faire ce grand saut un peu dans l'inconnu pour un mois, initialement, en 2015, dans un épisode qu'on avait enregistré dans la toute première saison du podcast, en 2019. Ça date un peu déjà maintenant. Mais donc, voilà, si vous voulez connaître tous les détails de cette partie, en tout cas de l'histoire d'Estelle, direction cet épisode que je mettrai dans les notes de cet épisode.
Oui, et puis ça fait partie des premiers épisodes et donc c'est bien de se rafraîchir un petit peu et puis de réviser ses classiques.
Mais surtout, oui. Il s'est passé beaucoup de choses parce que donc du coup, en 2015, tu t'arrêtes, mais tu commences surtout quoi, tu t'arrêtes la vie corporate et tu commences donc tu écris ce premier guide de survie alimentaire aux États-Unis pour les Français aux États-Unis. Tu en sors finalement plusieurs éditions. Tu écris aussi un livre de recettes, un amour de myrtille. Je vous recommande la recette de muffin aux myrtilles qui est à tomber par terre. Et finalement, en fait, on arrive aux États-Unis, on voit Estelle un peu partout, si on est un peu sur les réseaux sociaux. Je pense aussi au groupe Bon Plan Gourmand aux États-Unis que tu as lancé sur Facebook. Tu en as aussi un pour les professionnels, je crois, de la cuisine.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout a l'air... quand on fait vraiment la liste de là où je suis, ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, a priori, on peut penser qu'il n'y a pas de cohérence, alors qu'en fait, c'est très cohérent. C'est moi qui le dis après 7 ans, donc je peux le dire. C'est mon ancien prof de maths qui avait dit ça quand il a lu mon guide de survie. Quand, par exemple, je cuisine ou quand je m'immerge dans un domaine, mon objectif, c'est toujours de synthétiser. J'ai pas tellement envie de dire vulgariser, mais de synthétiser et de mettre en évidence l'essence d'une solution. Voilà. Ce qui m'intéresse, par exemple, pour en venir au guide de survie ou ensuite on va arriver dans le chocolat, ce qui m'intéresse, c'est de dire voilà ce que vous devez savoir. Voilà comment vous allez vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous n'avez pas besoin. C'est de donner aux gens les clés pour aller de l'avant et se sortir un peu de leur situation ou alors dans le domaine du chocolat pour explorer, pour commencer un début d'exploration. À chaque fois, je parle d'un problème qui est le mien, qui est mais quel est pour le guide de survie, quelle est la différence entre sour cream et crème fraîche et qu'est-ce que c'est le buttermilk, etc. Donc, je vais faire mes recherches et ce que je vais en sortir, je vais dire ben voilà ce que vous devez savoir, voilà les conséquences sur votre cuisine, voilà les conséquences sur les plats que vous allez préparer. On n'a pas besoin de faire les mêmes recherches que moi, mais je vais leur dire, voilà ce que vous devez savoir. Mais sans non plus ce qu'on dit en anglais, la dumb down, j'ai pas envie, j'aime pas. Ce qui est important pour moi, c'est de dire voilà pourquoi.
Ouais. D'expliquer et pas juste donner une solution gratuite dont on ne fait finalement qu'on ne retient pas forcément.
Voilà, moi j'aime pas, c'est quand, par exemple, je sais pas, Anne-Fleur, si c'est pour toi, c'est pareil, mais par exemple, quand je lis... un livre où on nous dit ne mettez pas au frigo, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Moi, c'est
pourquoi?
Je dis moi je suis pas, t'es pas mon gourou. Je vais le mettre au frigo quand même, juste parce que t'es pas là pour vérifier. Mais ça c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Mais bon, tout ça pour dire voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on suit une formation scientifique, je pense qu'on voit un peu le monde un petit peu différemment de ceux qui n'ont pas cette formation. Moi, ça m'aide énormément à comprendre les liens entre les choses. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment fondamentalement convaincue qu'on a tous en nous, ou tout en nous, la capacité de faire des grandes choses. Quand on nous explique les choses comme il faut, on a tous eu un prof qui nous a un peu montré la voie, qui nous a expliqué les choses de manière très claire, qui nous a permis ensuite de nous en sortir, d'aller de l'avant et d'avoir de bons résultats. Je suis vraiment convaincue que quand on donne les clés à quelqu'un, que ce soit voilà pourquoi la farine est différente aux États-Unis et voilà à quoi comment remplacer la T55, pourquoi la remplacer par la all-purpose flour, pourquoi est-ce qu'elle va être plus gourmande en eau, quand on explique les choses simplement, on donne du courage aux personnes qui reçoivent l'information. Et quand je reçois un message de quelqu'un qui dit « mais grâce à ton livre, j'ai découvert ci, j'ai appris A », moi, ça me fait super plaisir. J'adore transmettre. Voilà.
En fait, ce que nous explique Estelle, c'est qu'elle est pédagogue et qu'elle aime ça. Est-ce que c'est une passion qu'elle s'est découverte dans sa reconversion? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement avec lequel elle a grandi et qui s'est juste exacerbé dans sa nouvelle profession?
Oui, alors ça a commencé même avant le blog, c'est qu'en fait, donc quand j'ai fini mes études en 2001, je trouve mon poste pour les États-Unis en 2002, début 2002, je vais dire février 2002. Et on sait toutes et tous que les visas, ça prend du temps. Et donc, en la période, donc moi, je suis arrivée en juin. Et entre février et juin, j'ai fait du tutorat, mais alors en maths, en physique, en anglais, en allemand. Mais c'était, je crois que ma pointe, c'était 30 heures par semaine pendant les vacances de Pâques. Et quand j'étais même étudiante, quand j'étais en stage, c'était un stage non rémunéré et j'étais boursière. Et je me souviens, le stage, il couvrait juillet, août, septembre. Et moi, j'avais plus de bourse à ce moment-là. Et je me souviens, j'étais à Strasbourg. Notre labo était juste en face du Crous. Je traversais la route pour aller voir les petites annonces pour voilà donner des cours particuliers, faire du tutorat. Quand j'ai quitté en 2015 mon ancien boulot et que j'ai sorti le guide de survie et j'étais encore en plein questionnement, je me suis inscrite sur un site qui s'appelle Wyzant, donc c'est WYZANT. .com et c'est j'ai du temps, je vais faire du tutorat en français. Et donc, c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc, quand je ne sais pas quoi faire, j'essaye de transmettre, d'enseigner, d'expliquer. C'est super gratifiant.
Alors là, j'ai ouvert mes glacières. Je suis en train de récupérer des tablettes de chocolat que je vais prendre en photo pour une future dégustation en ligne.
J'aimerais bien qu'on revienne sur les toutes dernières années, à peu près en fait, au moment où on s'est quitté. Quoi. On s'est quitté fin 2019, donc dans un temps qui nous paraît hyper loin parce que c'était avant la pandémie, ouais. ça paraît être une autre vie. Toi, à ce moment-là, tu venais de terminer 37 Chocolates. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait ce que c'était le concept, ce qui t'a initialement en fait amené vers le chocolat? C'était une histoire d'anniversaire.
C'est ça. Donc 2015. Le guide de survie est en version papier et je décide de passer en revue 37 tablettes de chocolat en l'honneur de mon 37e anniversaire qui tombe le jour de Halloween. Et donc, pour faire très court, je me spécialisais dans le chocolat, ce qu'on va dire grand cru en français. En anglais, moi, je dirais plutôt le single origin, donc des tablettes dans lesquelles on goûte à une variété de cacao qui vient d'un terroir particulier. Alors déjà, j'avais été inspirée par ma copine Nicole au Canada, qui avait couru 50 kilomètres en l'honneur de son 50e anniversaire. Ce qui se passait, c'est que moi, je me souviens, elles m'ont appelée, elle et sa copine, qui ont couru ensemble, et je me souviens très bien de son visage en fin de course. C'était un sourire jusqu'aux oreilles, mais vraiment un sentiment de fierté que je pouvais lire sur le visage. Et ce que moi, je me souviens avoir pensé, mais qu'est-ce que j'aimerais me sentir aussi accomplie et fière le jour de mon anniversaire. Et à cette époque, il y avait un nouveau coffee shop qui venait d'ouvrir dans la ville avec une section de tablettes de chocolat qui avait pour moi deux caractéristiques. Numéro un, le prix était plus élevé que le chocolat que je trouvais au supermarché. Numéro deux, il y avait toujours un nom de pays. Donc, Guatemala, Belize, souvent un pays d'Amérique latine ou Madagascar ou en Afrique. Et je me disais, mais quel est le rapport entre le prix, l'origine et le goût? J'avais deux questions, c'est est-ce que vraiment le prix se justifiait en termes de goût, ce qui me donnait beaucoup plus de plaisir? Et deux, quel était le rapport entre le pays d'origine et le goût de la tablette de chocolat? Si je goûte à 37, j'aurais la réponse à ces questions. J'ai posté toutes mes revues sur YouTube et ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait très très peu de contenu sur ce type de tablette. Je voyais des revues de ce qu'on trouvait au supermarché. Moi, ça m'intéressait pas. Je voulais aller vraiment Voilà, je voulais aller un cran au-dessus. Et je m'étais dit, oh là là, moi je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une place à prendre dans ce milieu. Alors j'ai fait ce défi qui s'est écoulé de. J'ai commencé en mai 2015 et donc 31 octobre 2015, c'était la fin du défi. À la 8e revue, je me souviens très bien, j'ai goûté à une tablette qui m'a vraiment. Oh là là, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'était une tablette très intense en goût, une texture qui n'avait rien à voir. Elle était pas granuleuse. Elle avait, on aurait dit de la soie, je sais pas. C'était complètement différent. C'était un chocolat au lait très corsé à 65%. Puis glissé, c'était incroyable. C'était vraiment la claque gustative. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est clair, je vais pas m'arrêter à 37. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment voulu partager ce que j'avais découvert. Vraiment, le monde du chocolat. Moi, il y a vraiment deux choses qui m'ont marqué. C'est cette idée d'intensité de goût, vraiment d'expérience, de claque, de cette claque gustative. Je voulais vraiment la transmettre.
La partager.
Ah ouais, je voulais que d'autres le vivent. Mmh. Mais l'autre chose, c'est que j'ai vraiment compris qu'il y avait des gens derrière toutes ces tablettes. Je suis entrée en contact avec la chocolatière qui a créé cette tablette. Et pour moi, c'était une grosse révélation aussi. Je me dis, bon sang, c'est aussi facile que ça de parler à la personne qui fait son chocolat. Pour moi, c'est comme si, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait 5 pièces que je connaissais pas dans ma maison. Voilà. Et j'ai découvert un monde d'une richesse, d'une culture vraiment incroyable. Avant ce challenge, je savais pas vraiment d'où venait le chocolat. Enfin, très vaguement, je savais que ça venait du cacao. Mais j'en savais pas plus, je savais pas toutes les étapes qu'il fallait pour transformer une fève de cacao en une tablette de chocolat. Donc j'ai tellement appris, je me dis mais en fait c'est un produit très très noble et je comprends pas pourquoi on le voit pas entre guillemets. Et c'est ça en fait, je voulais vraiment montrer à d'autres que le chocolat c'est beaucoup plus que voilà quelque chose qu'on grignote quand on est stressé.
Mais si Estelle nous raconte ça avec un naturel et une passion déconcertante, le lancement de cette nouvelle activité n'a pas été de tout repos.
Ça, de lancer cette activité chocolat, alors ça, ça a été une grosse traversée du désert. Mais vraiment. Ah ouais, parce que je vais te dire, alors je pensais, donc tu parlais de la communauté française, le groupe que j'ai commencé après la sortie du guide, Bon Plan Gourmand aux États-Unis, à ce jour, on est 10 000. Donc j'avais quand même entre les lecteurs, lectrices du blog, du livre, du guide de survie, le groupe Facebook, j'avais quand même une communauté
sur Instagram aussi.
Oui, sur Instagram. J'étais.
Ouais. Partais pas de zéro.
Non,
quoi.
Non, je partais pas du tout de zéro. Et je me souviens très bien quand j'ai acheté mon premier stock de tablettes. Donc c'était, je crois, 200 tablettes de chocolat, ce qui à l'époque me paraissait, mais c'est pour une personne normale, c'est beaucoup, mais c'était pour les revendre. Donc j'ouvre mon premier compte en gros. Je vais revendre ces tablettes et mon but c'était vraiment de les vendre à la communauté qui me connaissait, qui avait déjà investi dans un livre, donc qui me faisait confiance et je m'étais dit oui, je vais proposer ces tablettes, donc qui à l'époque coûtaient entre 10 et 12 dollars par tablette et j'avais même mis en place un site en français. Je pensais même pas les vendre aux Américains.
Ouais, d'accord, ouais, tu t'es pas projeté dans la communauté locale finalement.
Non, pas au début. Et alors, la communauté française, je me souviens très bien, j'ai vendu 2 tablettes. Alors là, j'ai un sentiment de... je suis prête à prendre le sac en papier et puis hyperventiler. Je me dis, mais il me reste 198, ok.
Une situation particulièrement angoissante pour Estelle, qui se retrouve donc avec son stock de chocolat sur les bras et qui remet tout en question. Qu'est-ce qu'elle fait? Vers quoi elle va? Et qui va être intéressée dans ces tablettes de chocolat?
Je me suis invitée à une vente pop-up qui a eu lieu au mois de février de l'année suivante, 2016. J'organise ma première vente pop-up et c'est là, ça paraît évident maintenant avec le recul, mais en fait, j'avais toutes mes 198 tablettes, je les faisais goûter. Et alors, dès que les gens goûtaient, le stock, il partait. Je m'étais dit, ouais, c'est pas un produit facile à vendre en ligne. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de prise de conscience autour de l'origine du cacao, est-ce qu'il est bio, etc., etc. Donc, en local, j'ai réussi à au moins rentrer dans mes frais, grosse respiration. Et ensuite, je me suis vraiment concentrée sur le local. entre 2016, 2017, 2018, je commence à animer des ateliers de dégustation à la bibliothèque municipale. Les gens viennent parce qu'elle est, moi je suis payée, mais pour les personnes qui viennent, c'est gratuit. Et en parallèle, donc moi j'essaie d'organiser ces dégustations de chocolat payantes, mais c'est comme je dis, c'est la traversée du désert. C'est trouver un format de, alors déjà le format, l'endroit, combien est-ce que les gens sont prêts à payer. Enfin, c'est voilà, t'essayes vraiment de lancer quelque chose. Ça, je dirais que j'ai mis 2 ans à trouver un format qui fonctionne vraiment. Et donc, la magie, c'était d'accompagner le chocolat de vin. Alors, le chocolat, pourquoi c'est difficile à vendre aussi bien sur Internet ou alors d'inciter les gens à assister à une dégustation de chocolat pure, entre guillemets, c'est que le chocolat, c'est un produit que tout le monde pense connaître et qu'on a commencé à consommer très, 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 très jeune. Et demander à quelqu'un d'oublier tout ce qu'il savait sur le chocolat pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de plus cher, c'est quand même une sacrée...
On en revient à la pédagogie.
Ah ouais, ah non, mais c'était chaud. Hein. Et donc, par contre, la magie du vin, moi, j'ai toujours dit, hein, on fait vin et je sais pas, vin et impôts, remplir sa déclaration d'impôts, les gens arrivent. Hein. ah non, mais le vin, c'est magique. Hein. Alors, j'ai fait vin chocolat.
Donc, tu as trouvé quelqu'un pour faire ça avec toi ?
Oui, une winery locale qui, elle aussi, voulait remplir sa winery. Donc, c'était voilà. Et aussi, les clubs privés, les country clubs et les clubs de golf.
Ouais, voilà. D'accord. Donc, une population assez chic quand même.
Ah bah oui. Hein. Localement, je veux dire, les wineries, pas forcément. C'est des gens qui veulent faire autre chose qu'un resto. Donc, on était à $35 par ticket quand même. Donc, ça reste assez accessible. Dans les clubs, la facilité, c'est que je n'avais pas besoin de faire beaucoup de marketing. Parce que c'est eux qui se chargent de tout. Donc moi, tout ce que j'avais à faire, c'était à venir.
Alors là, ce qu'on entend, c'est du papier. J'ai reçu une livraison de chocolat la semaine dernière et donc je suis en train de enfin défaire les boîtes et mettre donc, ce papier de rembourrage au recyclage.
Estelle continue donc à accompagner ses clients et ses clientes dans la découverte et la dégustation de ses tablettes de chocolat. Puis à l'automne 2019, j'invite Estelle à venir nous raconter une partie de son histoire dans un des tout premiers épisodes de French Expat.
Alors, 2019, on arrive à 2019 à l'époque où toi et moi, on se parle. Et là, les choses commencent à vraiment décoller. Alors, j'ai commencé à me faire un nom. Les gens viennent me voir. Est-ce que tu peux faire un atelier dans notre club de notre country club? Et c'est la fête. Est-ce qu'on peut augmenter la capacité de l'événement? Bah, évidemment qu'on peut l'augmenter. Donc, moi, ça y est, je commence à voir la lumière. Je me dis, je vois les sous qui rentrent. Je me dis, ah bah, entre 2015 où je découvre le chocolat et 2019, c'est quand même écoulé 4 ans. Moi, j'aurais pu retourner à l'université, hein, récupérer un nouveau diplôme. Hein. Enfin, bref, tout ça pour dire que ça y est, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Février 2020, alors là, je suis overbookée à la période de la Saint-Valentin. Donc là.
Ah bah oui, le chocolat. Ouais, c'est un gros, gros business ici aux États-Unis.
Ah bah oui, donc moi, février, je vais d'une dégustation à une autre, d'un vin à un autre, etc. Et je me souviens, pour le mois d'avril 2020, j'avais bière et chocolat dans le calendrier, thé et chocolat dans le calendrier, café et chocolat, tout le monde voulait travailler avec moi. L'une des wineries, c'était « Viens tous les mois », carrément. Ah non, mais moi, c'était « Ça y est, j'ai trouvé ma voie, ça y est, il était temps ». Donc 2020, donc 5 ans après le début de mon histoire chocolatée.
Et donc ça y est, Estelle s'est trouvée, elle est sûre de ce qu'elle fait, elle adore ce qu'elle fait, elle adore rencontrer du monde, elle est complètement bookée, elle adore ça. Sauf que finalement, son business, il repose aussi beaucoup sur les événements, sur la rencontre avec les gens. Et en 2020, il s'est passé ce que vous savez tous, la pandémie mondiale du coronavirus.
Et Et bah ensuite, il y a ce truc qui s'appelle Covid qui s'abat sur notre tronche. Et qu'est-ce qui se passe?
Bah, il n'y a plus d'événements en personne, quoi.
Voilà. Cancel, refund, pardon pour l'anglais, mais j'étais sur Eventbrite et c'était, remboursé. Et je revois dans mon système de compta, mars 2020, revenu, $0. Voilà. J'avais mes tablettes que j'avais achetées. Je dis, bon, bah voilà. Et je me dis, ça se trouve, ça y est, c'est fini. Commencer à voir le début, et à ce moment-là, donc moi, comme je te dis, j'ai deux enfants. Moi, je suis vraiment tout le monde. Enfin, là, c'est l'école à la maison, enfin sur Internet, enfin ce que, enfin voilà. Donc
en 2020.
Tout à fait. Donc là, c'est fini le business. Enfin, j'ai même pas le temps ou l'énergie d'être de m'apitoyer sur mon sort. Ah bah oui, de réfléchir à une voie de sortie. Parce que de toute façon, je suis occupée à la maison. Je me dis, bon, Estelle, on a un toit sur la tête, on a de quoi manger, on est en bonne santé. Au final, j'ai pas. Alors, c'est là où je me dis, la chance que j'ai, c'est que les gens me demandaient toujours, est-ce que tu as un magasin? J'ai pas de magasin. Ouais. Tu vois, là, je suis en train de voir la vidéo, donc les gens pourront pas voir, mais tu vois une partie de mon stock derrière moi.
C'est ce que je regardais.
Ben oui, donc c'est ça. C'est ça. Donc, tout ça pour dire. Au final, les choses auraient pu être bien pires. Et je me dis, bon, bah écoute, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on va s'occuper des enfants jusqu'à fin mai, enfin, des enfants de leur scolarité. Ouais. Je veux pas que les gens croient que je m'occupe pas de mes enfants en été, mais voilà.
T'as géré les Zooms, tous les cours en ligne, etc.
Oui, la kiné en ligne, enfin bref, ça c'était fun, hein. Bref. Et j'avais besoin de me libérer, j'avais besoin d'avoir l'espace mental pour m'occuper du futur du business. Et je me souviens, il y a une très gentille personne que je connaissais depuis très longtemps via les blogs en français, Florence, si tu m'écoutes, qui m'a dit, mais tu sais, tu pourrais faire des dégustations sur Zoom. Alors moi, je suis vraiment, tout le monde le fait, enfin bref, je suis vraiment pas convaincue, etc.
Comment ça, tout le monde le fait? Personne faisait des dégustations, quoi que ce soit, sur Zoom?
En mai. Mes collègues avaient pivoté. Ça, je dois bien le dire, mes collègues chocolatiers là le faisaient. Et donc, ce que je me souviens très bien, là, la petite leçon d'entrepreneuriat marketing bidule, tout le monde nous dit, enfin, quand on se jette dans le marketing en ligne, tout le monde nous dit, tout ce qui compte, c'est la newsletter et puis d'avoir une liste de distribution par email, etc., etc. Et j'avais écouté ce conseil et j'avais communiqué avec ma communauté tout au long de la pandémie. Voilà, une fois par mois, j'envoyais une newsletter et arrive fin mai, j'envoie une newsletter, je dis, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'intéressé pour une dégustation sur Zoom? Et il y a une personne qui m'a contactée et j'ai dit, bon, il faut aller de l'avant. Avant, j'attendais qu'il y ait trois personnes pour faire quelque chose, maintenant j'attends qu'il y en ait une. Je lui ai dit, elle s'appelle Joy, je lui ai dit, Joy, tu seras là sûrement la seule. Alors, on va te chouchouter. Tout ce que tu veux, voilà, tu me donnes tes exigences. Elle voulait vegan, je vais te lui donner du vegan. Le dimanche, ok, dimanche, à 2h, etc. Donc, en fait, j'ai vraiment créé j'ai lancé cette première dégustation en Zoom, vraiment avec elle en tête.
À la carte, quoi.
Ah ouais. Et je me suis dit, si, je vais limiter le nombre de personnes à 12. Et alors, si les gens viennent, bah, très bien. Alors, moi, je m'attends à une personne. Bah, en fait, il y en a 12 qui arrivent. Et parce que voilà, mon ancien collègue qui en a parlé à sa copine, qui avait de la famille partout. Et sur ce premier Zoom, il y avait vraiment une famille avec des membres, mais absolument partout dans le pays, qui est venue. Ouais. Et c'est là, je me suis dit, ah ouais. Mais non, en fait, c'est drôle parce que je crois que la moitié était hispanique, en fait. Parce que c'était une de mes anciennes collègues de l'équipe de la Mérida d'Amérique latine, etc. Mais en fait, ce que ce premier Zoom m'a montré, c'est qu'il y aura, pandémie ou pas, on est nombreux hein, à avoir la famille un peu partout, présentiel. Ça va pour certaines occasions, mais qu'il y aura toujours un marché pour les personnes qui ne peuvent pas se rejoindre.
Alors, comment ça marche? Du coup, tu envoies à l'avance. Tu veux nous expliquer?
Comment ça marche? Alors, j'envoie, choisis un thème de dégustation. Là, c'était inspiré par mon voyage en Colombie en 2019. 3 tablettes de chocolat que j'envoie par la poste. Et donc, on peut assister au Zoom ensuite en tant que couple ou famille. Il y a suffisamment à manger pour 4 à 6 personnes. Et voilà. Donc, je m'occupe de toute cette partie logistique. Et ensuite, j'envoie le lien Zoom. Au début, voilà, je disais, oui, venez 15 minutes en avance parce que c'était encore compliqué, etc. etc. Mais voilà comment ça marche.
En sortant de ce premier Zoom, Estelle réalise qu'en fait, il y a une solution. Une véritable épiphanie qui lui montre que le présentiel n'est effectivement pas nécessaire dans tous les cas. C'est ce qui l'a amené à appeler finalement cette pandémie un cadeau très mal emballé. Je la laisse vous expliquer.
Alors, le truc qui est dingue, c'est que moi, ça me fatiguait le présentiel. J'adore le présentiel, mais soutenir un rythme d'un événement par jour, c'est monstrueux, quoi. Il faut avoir un système immunitaire de malade. Et puis, il faut boire des suppléments de protéines, j'en sais rien, mais c'est dur, hein. Mais tout ça pour dire qu'il faut vraiment tenir physiquement et on n'a pas tous et toutes la même constitution. Et je m'étais dit, non, mais en fait, choisir ces événements présentiels avec un peu plus de soin et ensuite privilégier Internet, c'est quand même pas mal pour le long terme, si on veut tenir sur la durée. Et en fait, quand j'ai fait ce premier Zoom, mais ce que je me disais, je sais plus si c'est ce premier ou le suivant, c'est que je ne voulais plus m'arrêter. Alors, c'est moi qui disais, ah, je sais pas, Zoom. Et en fait, je sais pas, mais ça me fait un effet, je crois que l'effet que me fait l'animation d'une dégustation Zoom, je pense que c'est exactement ce que les gens ressentent quand ils courent et ils parlent de 10 ans. Mais un truc de malade, je ne peux pas m'en passer. C'est si je pouvais, et je l'avais dit, mon objectif à ce moment-là, on parle de juillet 2020, c'est que j'en veux un tous les jours. Parce que c'est un truc...
C'est quoi? C'est comme un artiste qui se produit sur scène, en fait? Enfin, c'est le... Le show, c'est la rencontre, c'est partager ta passion.
C'est difficile à expliquer. Alors déjà, je pense qu'il y a une partie alignement avec ma mission personnelle. Parce que quand j'animais les dégustations de vin et chocolat, et même à ce jour, à moins que le groupe soit très petit, moi, ma passion, moi, ce qui m'anime, c'est le chocolat. OK? Et ce que je trouve hyper gratifiant, c'est de pouvoir enfin parler de chocolat, je peux montrer une cabosse sur l'écran. Les questions sont beaucoup plus poussées. On est quand même, on a pas mal de temps ensemble sur le Zoom. C'est d'avoir enfin cette impression d'avoir trouvé un format qui soit aligné avec ce que moi j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est vraiment génial. Et quand je faisais vin chocolat, donc moi, j'étais là en tant qu'hôtesse, entre guillemets, dans le sens où voilà le chocolat, voilà la tablette.
Démonstratrice, quoi, un peu.
Bah oui, et puis bon, oui, ça va ensemble parce que certains écoutent, certains écoutent pas. Il y en a qui voulaient vraiment pas, ou qui voulaient rester entre amis, ce qui est très bien. Mais je me dis, c'est quoi la finalité sur le long terme, en fait? C'est quoi, c'est pas assez pour moi. J'ai besoin de plus de transmission. Et sur la vidéoconférence, ce que je peux partager, c'est énorme. Ce que ensuite les personnes partagent elles-mêmes. Quand j'ai des personnes qui viennent d'Amérique latine, qui viennent aux États-Unis, alors souvent c'est des gens qui connaissent le cacao. Une fois, je me souviens, ça s'est arrivé beaucoup plus tard, mais pour tout ce qui est événements, lorsque j'ai des événements corporate dans la tech, il y a énormément de diversité. Je vais avoir des gens qui viennent. Je me souviens très bien d'une personne qui assistait à une dégustation, qui est originaire du Brésil. Elle était super contente. Elle m'a demandé à la fin de la dégustation la permission de partager une photo. Et c'est sa maman qui lui avait envoyé le matin même. Et c'était elle, petite fille, elle devait avoir 5 ou 6 ans, sur un trampoline au Brésil, en train de sauter sur des fèves de cacao qui séchaient. Et c'est manifestement une méthode là-bas. Moi, je connaissais pas la méthode trampoline, mais manifestement au Brésil, c'est normal. Voilà, c'est tellement plus gratifiant et aussi, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique qui se passe et je pense que à moins de tester énormément de choses, on ne sait pas ce qui va nous satisfaire comme ça, qui va nous donner ce rush de dopamine comme tu dis. Mais moi, ça y est, quoi, c'est mon truc, c'est encore et encore et encore.
Alors là, je viens de mettre ce que j'appelle la chocomobile dans la voiture. Alors la chocomobile, qu'est-ce que c'est? C'est un chariot de poussettes que j'ai reconverti en chariot pour amener les tablettes de chocolat dans leur paquet à la poste. Donc dedans, j'arrive à mettre 3 boîtes postales. Et c'est comme ça que j'arrive à m'organiser, donc, quand j'ai des très grosses dégustations de 50 personnes et plus.
Et alors, comment est-ce que tu développes cette activité, du coup, de cet été 2020 ?
Alors là.
Comment est-ce que tu arrives, en fait, à... Ça devient, en fait, ton activité principale.
Ah oui. Alors là, je vais partager tous mes secrets, hein, Fleur. OK ? Donc ça, c'est...
OK. On sort tous nos carnets.
Ah ouais. Alors, je vais raconter. Alors déjà, ce qui s'est passé... Alors, on va faire un gros bisou à tous nos amis podcasteuses et podcasteurs. Ce qui m'est arrivé, c'est que Joy, qui a été la seule personne qui avait dit oui à la dégustation Zoom, elle, à l'époque, co-animait un podcast qui s'appelle Local Mouthful. Je crois que maintenant, c'est fini. Mais à l'époque, avait une sacrée communauté. Et elle a tellement aimé son expérience Zoom qu'elle en a parlé sur son podcast. Elle, pendant 6 mois, j'ai eu des gens qui me contactaient grâce au podcast.
Wow.
Elle a une communauté qui était extrêmement loyale et qui avait énormément confiance dans le contenu. Et ça a été, mais c'était, voilà, c'était un flux, c'était extra, quoi. Et donc, mais oui, vive les podcasts, j'ai refait la dégustation Colombie. Alors, d'autres gens sont arrivés grâce au podcast. Et à chaque fois, j'ai dit, bon, j'en remets un sur le calendrier. Alors là, il faut savoir que je m'adressais directement aux particuliers. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, à cette période-là, c'est comme je communiquais énormément sur les réseaux sociaux, sur ces événements ouverts au public sur Zoom, j'ai reçu un message d'une collègue. Alors, une collègue me contacte en disant, Estelle, j'ai vu que tu organises des dégustations sur Zoom. J'ai acheté une maison dans Upstate New York. Voilà, on doit s'occuper des papiers pendant toute une semaine à la fin du mois. J'ai besoin de quelqu'un qui peut me remplacer pour 3 dégustations. Alors moi, je dis OK, pas de problème. Pour des entreprises.
Ah.
Oui. Et donc, c'est ma première expérience corporate. Alors là, c'est des événements énormes. Enfin, certains sont énormes. Là, j'ai rien envoyé du tout. Moi, j'étais vraiment, je la remplaçais, quoi. Je parlais au nom de son entreprise et je me suis rendu compte qu'elle avait eu ses clients grâce à une plateforme destinée aux entreprises. Voilà. Donc, en fait, ce que faisaient les, enfin, ce que il faut se mettre à la place du client. Alors, les clients, c'est des entreprises qui veulent organiser une activité pour leurs employés, pour leur remonter le moral pendant cette période de pandémie. Donc, ça peut être dégustation de vin, atelier, je sais pas, de macramé, de tricot, dégustation de chocolat. Donc, c'est vraiment tout un menu tout un menu comme ça d'activités. Et moi, je me suis dit, mais alors, s'il y en a une, il doit bien en avoir d'autres d'agences comme ça. Et donc, je décide de faire de pousser les recherches et de trouver une agence comme ça. Et alors là, j'y passe. Vraiment, je passe beaucoup d'énergie, je passe beaucoup de temps et d'énergie à rechercher ce type d'agence. Et j'en trouve une. Et je vais leur faire un coup de pub hein, quand même, parce qu'ils ont été... C'est génial de faire partie de cette aventure. J'en trouve une qui, à l'époque, doit avoir 6 mois et 4, peut-être 4 ou 5 activités sur le site. Un site hyper basique. Je les contacte, je vois qu'ils n'ont pas de chocolat dans leur menu. Je dis ce que vous voulez, dégustation de chocolat. Je parle à l'un des cofondateurs de Team Class au téléphone. Le courant passe super bien. Moi, j'ai vraiment un bon feeling. Et puis, on décide, allez, on va le faire. Alors, ce qui se passe, c'est que je me souviens, au mois de décembre 2020, je commençais à avoir mes premiers clients grâce à eux. Depuis 2020, l'agence a explosé. Mais vraiment. Et j'ai l'impression d'avoir misé sur le bon cheval, en fait. Et je suis impressionnée par leur professionnalisme, par énormément de choses. J'adore bosser avec eux. Donc ça me permet d'avoir un flux régulier de clients corporate. Et en parallèle, j'ai pas mal investi. Il y a de plus en plus de demandes aussi via Google, enfin, via les moteurs de recherche. J'ai trouvé pas mal de clients sur les groupes de Facebook locaux. Le bouche à oreille ensuite continue à faire son chemin. Donc, entre mai 2020 et aujourd'hui, donc on est été 2022 au moment où on se parle, j'ai animé plus de 300 ateliers sur Zoom.
What?
Ouais, je rigole
c'est
pas.
C'est incroyable.
Ah ouais.
J'ai 300 ateliers en 2 ans, en 1 an et demi.
Bah, 2 ans. 2 ans. Sur Zoom, hein, je compte pas les présentiels.
Ouais, en plus. Ouais.
Maintenant, c'est quasiment 100% de mes clients ont des équipes internationales. Et mon record a été, je crois, 7 ou 8 pays différents. 77 personnes sur 8 pays différents. Et comme j'ai un gros réseau de chocolatiers, et bref, j'arrive à, J'utilise leur chocolatier de leur pays. C'est ça, c'est un truc qui me tient à cœur.
Bah, ça doit parler vachement en plus de pouvoir découvrir des gens de là où t'es, pas forcément de là d'où tu viens, mais en tout cas de là où.
Ah ouais. Et des clients, mais c'est j'adore, mais je peux même pas te dire à quel point j'adore mes clients, quoi. C'est des discours en début d'atelier où moi je suis avec mon petit mouchoir en disant il y a des gens formidables. Ah non, mais l'un des clients que j'ai été le plus heureuse de servir, ça a été ACLU, une organisation qui soutient se bat pour les droits civils. Voilà. Donc en fait, c'est une organisation juridique. En fait, c'est des avocats. Enfin, c'est une association qui se bat pour les droits trans, lesbiens, gays, les droits des réfugiés. Enfin, c'est vraiment la liberté de parole. Enfin, voilà, ça couvre tout. Et j'avais animé la dégustation donc pour le président de l'organisation nationale. En fait, ils ont discuté budget pour l'année. Voilà. Et donc la tension, tu l'as coupée avec un couteau. Hein. J'arrive, donc ils étaient. Tu imagines que tout le monde n'était pas content avec ce qu'ils avaient récupéré. Donc en fait, ils discutent de leur budget pour l'année. Moi, j'arrive, je vois les visages des gens. Il y en a qui parlent pas. Il y en a, mais c'est il y en a qui n'ont pas dit un mot de toute la dégustation. Ah non, mais c'était. On m'a envoyé un message, la secrétaire m'avait envoyé un message pour dire « Estelle, surtout, la vibe va être bizarre. » Je vais dire, ça a été le groupe le plus tendu que j'ai eu des 300. Et ce qui était absolument génial. Donc, il y a quand même 2-3 personnes qui ont dû avoir l'argent dont ils voulaient avoir parce qu'eux, ils parlaient. Et on a commencé à rigoler, etc. Et à la fin de l'heure, on a dû nous rappeler que c'était fini. Il y a des gens qui étaient complètement, enfin, qui avaient oublié leurs problèmes, leurs histoires de budget, etc. Et j'ai reçu un message après.
Incroyable.
Pour me dire, mais c'est exactement ce dont cette équipe avait besoin, mais merci beaucoup, quoi.
Si tout ceci lui réussit tout de même plutôt bien, au début de l'été 2022, il y a donc quelques mois, Estelle a finalement repris les dégustations en personne, l'idée étant de répondre à son profond besoin de rencontrer des gens. Comme elle le dit, pour elle, ce n'est pas sain de ne vivre que sur Internet, même si cela est tentant et, de ce qu'on a pu comprendre, ça lui sert plutôt bien.
Voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais vraiment, là où je vois le plus de potentiel, c'est à l'international. Et la chance qu'on a en tant qu'immigré ou expat ou ce qu'on veut, c'est qu'on parle plus d'une langue, on a accès à plus d'un réseau. On a une capacité, je pense, à s'adapter que les personnes qui ne sont pas immigrées, qui n'ont pas grandi dans un milieu multiculturel, n'ont pas forcément. La pandémie m'a fait ce cadeau de 0 $ au mois de mars 2020. Voilà, j'ai vraiment regardé l'échec droit dans les yeux. J'étais convaincue que ça allait, c'était fini. J'allais pouvoir trouver un autre boulot, me réinventer pour la xème fois. Et en fait, j'ai exploré ensuite ce monde de Zoom. Et mon monde, au final, au cours des 2 années suivantes, mon monde, mon audience, les clients, mon monde s'est agrandi. Et jamais je n'aurais pu imaginer toucher une audience aussi large. Ça a été un sacré ajustement. Ça n'a pas été facile, forcément, comme tous les pivots. Mais là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais pu arriver s'il n'y avait pas eu la pandémie, finalement. Alors, ce n'est pas pour dire que j'en suis reconnaissante, loin de là. Moi, j'aurais préféré continuer, sans toutes ces personnes, tous ces décès, 2 années vraiment très, très, très difficiles et compliquées. Mais finalement, je pense que ce que j'ai récupéré de cette expérience de pandémie, d'être face à face à l'échec, ce que j'en récupère, c'est que finalement, on a beaucoup plus de ressources en soi qu'on imagine. Et que même si tout s'arrête demain, et ça, j'en ai tellement conscience, c'est pas très grave en fait. On en revient à. On a un toit sur la tête, on a quoi nourrir sur nos familles. Bon, on est en bonne santé. C'est ça vraiment le plus important au final. Et si demain, je dois faire autre chose, ben, je ferai autre chose.
Donc finalement, les causes de ce pivot du business d'Estelle, ce fut véritablement un cadeau très mal emballé.
Très mal emballé, ça c'est sûr, hein, parce que passer tout le mois de mars à rembourser tout le monde, de voir tout ce revenu qui part, ça fait pas du bien. Mais on avance, il y a toujours...
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment au cours des 2-3 dernières années, ou au contraire, c'est assez incroyable. Malgré les circonstances qui étaient difficiles, tu referais tout pareil.
Je referais tout pareil. Zéro regret. Mais même depuis 2015. Hein,
c'est un chemin, quoi.
C'est un chemin. Parce que je me souviens très bien de l'année où j'ai fait ma compta et il y a eu moins 100 $ dans la déclaration d'impôt. Donc, j'aurais mieux fait de rester couchée. Entre guillemets, et là vraiment, c'est mon vrai travail en fait. En anglais, moi j'appelle ça chocolate sommelier. J'en suis de plus en plus. C'est quelque chose qui me parle. Mais au final, oui, aller sur mon Zoom, envoyer des tablettes de chocolat et aller sur l'ordinateur faire tous les suivis tous les matins. Ça, c'est mon travail. C'est mon travail à temps plein. Alors je sais qu'il dit non, mais ton vrai travail. Mais non, c'est mon travail à temps plein. Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que ça a été un très, très long chemin. En tout cas, il m'a paru long. En fait, 7 ans, c'est quoi? Mais en même temps, ce que j'ai appris avant la pandémie sur les accords vin-chocolat, sur le vin, parce que j'y connaissais rien en vin, le chocolat m'a ouvert la porte du vin. Et maintenant, je suis en position de pouvoir faire des recommandations de vin. Je suis en position de parler de vin et de chocolat toute seule. J'ai pas toujours besoin de quelqu'un qui va parler de vin. Pour ce que je fais, ça suffit. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais en fait, tout a été une brique. En fait, connaître, pouvoir faire les accords vin-chocolat, ça a été une brique. Savoir se comporter dans tous ces clubs de golf, en des lieux un petit peu luxueux, c'est une autre brique. Savoir poster tous ces tablettes de chocolat au mois de juillet 2020, quand il faisait chaud à Porto Rico, savoir comment les emballer, etc., ça a été une autre brique. Et un jour, on regarde en arrière, on se dit « Ah, mais j'ai construit une maison. » Mais évidemment, en fait, ça a mis du temps parce que toutes ces briques, elles mettent du temps à se créer, à se fabriquer, à se cimenter. Enfin bref, c'est la patience et la persistance font partie de la recette. Et il faut pas vouloir accélérer les choses juste parce qu'on est pressé. Quelle sagesse!
Nickel, c'est bravo, je suis... Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Estelle Tracy pour ce chouette moment passé avec moi. J'espère que son histoire vous aura plu. Sa positivité et puis tous ses bons conseils. J'espère en tout cas, comme elle me le disait en off, que cela vous aura donné envie, vous aussi, de vous réinventer. Pour retrouver Estelle, vous pouvez rechercher son business directement qui s'appelle 37 Chocolates. Donc vous pouvez taper 37 Chocolates. Pour continuer la conversation autour de cet épisode, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Vous le savez désormais, on est à peu près partout. LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et on a hâte d'échanger avec vous. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine.
Je suis né homosexuel, gay, et c'était pas simple dans les années 90, en Picardie, dans le fin fond de l'Oise, près de la Somme, grandir dans cet environnement, dans un environnement assez macho, un papa agriculteur, assez... super gentil, super sympa, mais tu sais, un peu brut de décoffrage. Et je me suis jamais vraiment senti à ma place. Je voulais toujours sortir de mon village. C'était toujours, tu sais, une sorte de fuite en avant pour toujours essayer de te fondre dans la masse et ne plus être le petit garçon efféminé du village. Je suis arrivé le jour de Mardi Gras. Et Mardi Gras, en Australie, c'est la Gay Pride, en fait. C'était quelque chose de fou. Enfin, tu sors avec tes valises et t'arrives dans le centre de la ville. Et t'as des drapeaux gays partout. Et c'est comme un gros welcome. Enfin, tu vois, welcome Mathieu à Sydney. Viens comme tu es. On est là pour pour te recevoir. Ouais.
Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, une merveilleuse fin de semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.
Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, avec Team Class, quand j'organise une dégustation, il y a un lien pour laisser une revue après.
Un avis.
Voilà. Oui, merci beaucoup. Ils peuvent m'envoyer des revues aussi, s'il vous plaît. Bref.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.